Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
La simplicité volontaire peut être un mode de vie choisi, mais aussi subi par les enfants. C'est un peu l'histoire de Jala Maria qui a passé son enfance loin du monde d'en bas pour vivre une enfance en autarcie, rythmée par les lois de la nature, loin du monde moderne. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de jouets en plastique, et surtout, pas d'école pour ne pas être formatée.
Ouais, donc ça a commencé par téléphone où tu me disais, bah, passe au marché de Saint-Giron, tu verras, c'est chouette, il se passe plein de choses et tu vas rencontrer des gens intéressants dans la dynamique, sobriété heureuse, simplicité volontaire, va voir ma maman. Donc tu m'as dit, ma maman, elle vend...
des pommades de consoude. Alors depuis toujours, depuis qu'on est tout petit, nous on a été guéris uniquement à la pommade de consoude pour les eczémas, pour les brûlures, les coups de soleil, les fesses de bébé, enfin bref. Et aujourd'hui, ben, ma mère, elle vend ses pommades et elle fait... elle est super contente parce que ça se vend bien, les gens reviennent. Et voilà, du coup, le samedi matin, elle est sur le marché de Saint-Giron. Et effectivement, c'est un marché qui est connu de loin parce qu'il y a tous les locaux, mais il y a aussi les hippies, c'est un mélange de couleurs. Et bon, aujourd'hui, il pleuvait, je ne sais pas s'il y avait autant de monde que d'habitude, mais c'est à voir.
En tout cas, j'ai tourné bien 30 minutes pour trouver une place, donc je pense qu'il y avait beaucoup de monde. C'était un peu humide, mais c'était vraiment chargé, les allées très chargées, très grandes, comme un petit village, mais un grand marché avec une belle diversité. Et effectivement, ta maman qui était là avec le guéritou, je crois, c'est ça, la pommade guéritou.
Oui, oui, c'est exactement ça. C'est la pommade guéritou.
Et donc, je lui disais, bah tiens, cet après-midi, je vais rencontrer Jala. Jala ou Jala Maria, comment je t'appelle?
Alors, on m'appelle Jala. Ouais. Et après, en vrai, je m'appelle Jala Maria. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand ils sont arrivés à la mairie pour signer Jala, ils ne voulaient pas des noms farfelus. Donc, Maria, pour avoir un nom plus classique, Jala Maria, les intimes m'appellent Jala. Et Longa, parce que je suis mariée à un monsieur Longa.
Bon, on parlera plus tard de ton histoire, du bouquin qui est là devant nous sur la table. Mais je reviens au marché de Saint-Giron ce matin. Donc je disais à ta maman que je rencontrais Jala cet après-midi. Et elle me disait, oh, ma fille, ah, elle n'a pas été à l'école, mais elle a eu un grand prix de littérature. Et là, j'ai senti une pointe de fierté dans son regard et dans le ton de sa voix. C'était très émouvant.
Ben oui, parce qu'il faut se mettre à sa place. Je pense qu'elle a fait un choix de vivre en autarcie avec mon papa. Et ce qui a été pas le plus dur, mais mal vu par leur famille et par l'entourage, c'était le fait qu'on n'aille pas à l'école. Et c'était toujours, mais vous vous rendez pas compte. Enfin, voilà, l'école c'est quand même essentiel. Ils vont voir leurs copains, ils vont apprendre à lire et écrire, bien que mon père nous apprenait la base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous fait sourire, c'est que, bon, ben, je me suis mis à commencer à écrire à l'âge de 23 ans. Sincèrement, j'écrivais phonétiquement parce que j'adorais lire, mais j'écrivais comme j'entendais. Et j'ai rencontré un prof de français qui connaissait mon enfance et il a bien voulu m'apprendre à
restructurer un petit peu tout ça.
Oui, totalement, à écrire tout simplement. Et donc là, en français, enfin, je faisais énormément de fautes. Du coup, je m'y suis mise, ça a duré quelques années. Et là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai sorti donc le livre sur mon enfance. Et ça fait sourire à ma mère parce qu'elle se dit, mais quelque part pour elle, c'est un retour envers toutes ces personnes qui ont douté de leur choix finalement. Et voilà, c'est un retour en se disant, regardez, ils n'ont pas été à l'école, mais c'est pas pour ça que... voilà, il reste à côté du monde. Non, c'est pas du tout.
Finalement, c'est une sorte de signe de réussite sociale que d'écrire un bouquin aujourd'hui, non?
Oui, oui. Des fois, je me pose plein de questions parce que c'est, je sais pas du tout ce qu'il en aurait été si j'avais été à l'école. Après, je pense que bon, il y a mon caractère aussi, mais le fait de ne pas avoir été à l'école, je pense que ça m'a poussée. Je me suis jeté un défi. Et c'est moi, je suis comme ça, j'adore les défis. Et je me suis dit, mais je l'avais proposé à mon père qui écrit très bien. Je lui ai dit, pourquoi tu n'écrirais pas notre histoire? Parce qu'en fait, quand j'ai quitté ici, à l'âge de 16 ans, quand je me suis retrouvée à Avignon et Paris, quand je parlais de mon enfance, les gens ils me regardaient avec des gros yeux. Ils disaient, non, mais c'est pas possible. Enfin, aujourd'hui, tu vivais sans eau, sans électricité, sans rien du tout, tu n'allais pas à l'école. Enfin bref, c'est pas possible. Enfin, pour eux, c'était impensable. Et quand je suis revenue plus tard, j'ai proposé à mon père de le faire, parce qu'il écrit très bien, et il me dit non, moi j'ai pas le temps. Puis bon, moi je connaissais mes lacunes, donc pour moi c'était un rêve inimaginable. Tout simplement, je me disais non, c'est pas possible. Et puis, un jour, c'est mon mari qui a été embauché à Massat, il est de Grenoble, et là j'ai dit non, moi je veux pas retourner à Massat. Donc quand il m'a dit ça, je dis non, c'est pas possible, non, pas Massat.
C'est génial. Donc là, ça y est, on a posé le décor. On est maintenant dans un petit bar qui s'appelle le Maxil Café. Et on est à Massat. Donc Massat, c'est vraiment le village ou la ville la plus proche de là où tu as grandi, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est le village. Nous, on habitait à 7 km en haut dans les montagnes. Et c'était, pour nous, c'était la grande ville quand on descendait à Massat autrefois. Mais on descendait avec la charrette et l'âne parce qu'on n'avait pas de voiture. Et aujourd'hui, c'est mon village à nouveau.
Chouette. Alors, tu me proposais par téléphone peut-être de quitter Massat pour aller faire un tour un peu dans les montagnes. On peut aller sortir un peu de ce cadre-là et se rapprocher de là où tu as grandi, se poser quelque part en bord d'un chemin, sur un banc, et puis prendre le temps de parler de ton enfance et du bouquin qui va avec.
Oui, alors il y a deux possibilités. C'est vu qu'il y a des nuages, je regardais si on monte en hauteur là où j'avais prévu aujourd'hui, on sera dans le brouillard. Donc, je ne sais pas si c'est une trop bonne idée. C'est une piste de 7 km, donc déjà, il faut la faire. Et après, une fois en haut, on voit ma vallée en bas, qui est en contrebas. Et ça peut être un bel endroit, mais si on n'a pas la vue, ça ne sert pas à grand-chose.
Un petit sentier, je te suis, hein. Tu me sers de guide local en même temps, parce que je ne sais absolument pas où on est. Donc, peut-être juste un peu me parler de ce cadre.
Alors,
donc,
ici,
Massat, l'Ariège, qu'est-ce qui se passe ici?
Ah, il se passe plein de trucs depuis longtemps. Alors voilà notre village sur la droite. Il faut savoir qu'ici, il y a quelques années de ça, ils étaient 8000. Et après l'exode rural, eh ben, on se retrouve à 300. Donc voilà, ça s'est bien vidé. Après,
là, tu avais 8000 habitants sur ce qu'on voit devant nous. Donc tu as quoi ? Tu as un tout petit village avec un clocher au milieu. On va essayer de donner un peu une dimension visuelle. Des montagnes tout autour.
Il y avait des vingtaines de petites boutiques, des petits magasins. Il y avait tout à Massat, en fait. Il paraît que c'était un des villages de tout le canton. C'était le gros village, c'était la ville finalement. Ils venaient tous ici parce qu'ils trouvaient vraiment de tout. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et on a deux bars, donc un restaurant. On a des chambres d'hôtes qui sont en train d'ouvrir. Mais il y a le petit marché le jeudi, mais voilà, c'est mignon quoi.
Donc là, on est où dans les... C'est déjà les Pyrénées, ça ?
Oui, on est dans les Pyrénées, en Ariège exactement. On est en Ariège, donc là, c'est l'été, c'est très vert, il pleut souvent, c'est pour ça que c'est vert. Quand il fait beau, c'est magnifique, et l'hiver, on a de la neige.
Et je les imaginais plus hautes, les montagnes, non ? Ou peut-être qu'on ne les voit pas cachées
par
les nuages ?
On ne les voit pas. En fait, si on partait de ce côté-là où on voulait monter aujourd'hui, finalement, c'est vrai que s'il n'y a pas les nuages, c'est tout dégagé sur le Mont-Valier. Donc, c'est la grande chaîne du Mont-Valier, quoi. C'est les plus grandes montagnes des Pyrénées. Mais là, c'est vrai qu'on est entre... Ça fait des vallons, on est un petit peu encaissé. C'est des montagnes, bon, tant qu'il y a des arbres, c'est qu'on n'est pas si haut. Ici, on est à 700 mètres. Et après, on va monter à 1000 mètres là, sur ce qu'on voit autour de nous.
Et donc, tu disais, Massat était un village pas mal peuplé, l'exode rural. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment est-ce qu'il a commencé à se dépeupler ? Pourquoi les gens ont quitté ce lieu ?
Pour l'exode rural, la grande question, c'était il n'y avait plus de boulot dans le pays. Tout le monde partait pour le boulot. Et voilà comment les femmes sont parties se marier en ville. Le truc classique des campagnes, finalement.
Mais avec une spécificité, c'est qu'ici, en Ariège, il y a les néo-ruraux qui sont arrivés.
Exactement. Alors, dans les années 76, je crois, il y a eu, même avant peut-être, dans les années 70, il y en a eu énormément qui sont venus. Alors, au départ, j'ai écrit Terre Courage. Le deuxième livre que j'ai écrit, c'est là-dessus, justement. C'est comment ces gens du pays ont vu arriver cette vague de néo-ruraux. Tout d'un coup, du jour au lendemain, une nouvelle génération de jeunes. Et du coup, voilà, c'était au départ, bien sûr, il y avait des regards, il y avait de la méfiance, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui jouaient. Et il a fallu quelques années avant que ça se côtoie, que ça apprenne à se connaître. Il y avait les enfants de ces néos, dont nous. Et bon, quand on était petits, là, dans Terre Courage, j'en parle beaucoup, parce que quand on était petits, il y avait les enfants de néos. Les enfants des villages ou les gens du cru, finalement, mais on ne se mélangeait pas.
Même à l'école, j'ai envie de dire, mais à l'école, tu sais pas où tu...
Moi, j'y allais pas, mais après, il y a tous nos copains, eux, ils y allaient. et ça ne se mélangeait pas. Il y avait d'ailleurs, c'était une école à Bernay de là-haut, c'était que des enfants de néo-ruraux. Et quand ils descendaient au village à Massat, quand ils descendaient là, c'est vrai que non, il y avait les néo d'un côté et les gens du cru de l'autre côté, quoi.
C'est génial. Bon, les néo, c'est aussi les hippies, comme on les appelait à ce moment-là. On va peut-être s'asseoir quelque part. Là, regarde, il y a une petite table, je sais pas, il y a un petit banc.
Oui, on peut se mettre là.
On va essayer d'aller par là-bas.
Je pense pas que ça va déranger, c'est le camping.
Donc finalement, ça a relancé l'économie locale, le fait de pouvoir...
Tout à fait. Maintenant, si vous comptez les gens du cru, il n'en reste pas beaucoup. Il y a une petite poignée et tout le reste, même dans les écoles, les enfants, c'est incroyable. Finalement, il y en a beaucoup dans Terre Courage. J'ai été interviewé beaucoup d'anciens d'ici qui nous disent, mais heureusement qu'ils sont venus, parce que sinon, ça serait vide.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est beau, ça. Donc finalement, au début, l'étranger fait un peu peur, on le connaît pas. En plus, il a plein de poils, donc finalement, avec le temps, ça va, ça s'est assagi tout ça. Donc ouais, les hippies, parle-moi, qu'est-ce que c'est qu'un hippie ?
Alors ça, c'est pour ça que j'ai écrit « Mon enfance sauvage ouais. », justement, parce que c'est quoi un hippie ? Nous, on était des enfants de hippies. Bon, mon père a toujours dit qu'il n'était pas un hippie.
Donc là, on revient en quelle année, Marie ?
Donc là, on revient, moi je suis née en 80. Donc voilà, nous, j'avais déjà trois frères et sœurs devant moi. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère est arrivée en Ariège. C'était une hippie qui arrivait de l'Allemagne. Elle est arrivée en Ariège avec son chien, sa guitare et ses copains. Et mon père, lui, il est venu en Ariège parce qu'il était entré dans une école de berger. C'était un fils de colonel qui avait bougé d'endroit en endroit. Il n'avait jamais vu un hippie de sa vie. Et lui, son rêve, c'était de s'implanter dans un endroit, d'avoir ses brebis, ses chèvres, le berger en montagne. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a acheté une ferme et un beau jour, il croise ma mère. Et là, il peut dire ce qu'il veut, mais voilà, il a trouvé très joli. Il y a eu un homme crochu, malgré que voilà, ils avaient des idées qui étaient quand même pas opposées, mais ils étaient très différents. Ils le sont toujours. Donc ils se sont mis ensemble, ils ont eu 8 enfants et ma mère donc lui a fait savoir qu'elle voulait vivre en montagne, mais sans rien de la société. Voilà, c'était leur différence, c'est que mon père n'était pas réfractaire au monde d'en bas, qu'il disait. Le monde d'en bas, parce qu'ils habitaient en montagne, donc la civilisation. Par contre, ma mère, elle, était complètement réfractaire à toute technologie, à toute nouveauté. Elle voulait se prouver, quelque part. C'est pour ça qu'elle est fière, au fond d'elle, parce qu'elle voulait se prouver qu'il était encore possible de vivre sans la société.
Et elle l'a fait.
Et elle l'a fait, et ils l'ont fait. Et même aujourd'hui, on me dit, mais vos parents, ils vivent toujours comme ça. Et oui, ils vivent toujours comme ça, donc sans électricité, ils ont le lavoir dehors, ils lavent leur linge au lavoir, ils vivent encore, voilà, ils font le foin à la main, ils cuisinent sur le feu de bois, enfin, voilà, c'est vraiment un choix qu'ils ont gardé, qu'ils ont fait au départ et qu'ils ont réalisé, donc il y en a beaucoup qui les admirent quelque part, parce qu'il y a eu beaucoup de hippies qui ont voulu, qui ont tenté, mais qui ont lâché prise... parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts.
Et c'est souvent finalement une forme d'idéologie nourrie par l'urbain, de vivre autrement. Et quand ils se rendent compte de la réalité, ben souvent on déchante. C'est pas évident effectivement de garder le cap et de continuer à vivre son rêve dans la durée. Et ta mère, est-ce qu'elle a pu exprimer ce qui l'a poussée à quitter l'Allemagne ? Pourquoi est-ce qu'elle avait ce rêve de vivre autrement ?
Cette question, ça serait beau de lui poser. Après, elle a eu... Je pense que voilà, c'était moi de ce qu'il en est. Hein, peut-être sa version serait différente. Ce qu'elle m'a dit quand j'étais petite et ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle a quitté son pays parce que bon, déjà, elle a eu des parents divorcés, donc c'était assez douloureux. Et elle ne comprenait pas depuis petite pourquoi il fallait aller à l'école, pourquoi il fallait s'asseoir sur une chaise, pourquoi il fallait tout éplucher, que ce soit de la théorie sur papier, alors qu'elle, elle avait qu'une envie, c'était de partir dans la montagne, de marcher, de courir, de vivre avec la nature finalement. Et c'est une enfant de la ville, hein, donc tout ça, c'était des rêves impossibles. Et quand elle a grandi, il y a eu des blessures avec ses parents. Elle a été jeune, elle se cherchait, donc elle avait ses copains. Je crois qu'elle a fumé un jour un joint, ça a été la grande catastrophe dans sa famille. Notre fils se drogue, etc. Donc grosse blessure, les parents ne la comprennent pas, la mettre en psychiatrie. Enfin, c'était ils ne pouvaient pas se comprendre. Je crois qu'ils n'étaient pas sur le même niveau. Du coup, ma mère a rencontré les hippies à cette époque-là. Donc pour elle, ça a été... souvent, quand je l'entends parler, c'est ce qui l'a sauvé. Elle me dit c'est ce qui l'a sauvé de ce petit monde qui n'était pas le sien, finalement.
Donc là, on est en Allemagne, ta maman s'appelle Barbara et elle fait le choix de venir ici en France, en Ariège. Comment est-ce qu'elle a entendu parler de ce lieu? Est-ce qu'en Allemagne, on parlait déjà des réseaux associés alternatifs ici en France? Quel a été le cheminement pour arriver jusqu'ici? C'est quand même loin.
Je ne saurais pas vous répondre exactement, mais je sais que ma mère, elle est partie de l'Allemagne et ensuite, donc elle a voyagé et les voyageurs, ils se rencontrent, il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Et là, elle a atterri, je sais, elle a été chez les Gitans. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle voyait tous ces gens vivre dans des caravanes et voilà, comme ils vivent, qui bougent, qui sont en famille, très réunis, font la musique le soir. Et ça l'a complètement bouleversée. Elle s'est dit, mais moi, c'est ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'une famille unie et surtout avec plein de monde. Mais elle ne savait pas comment le construire. Et ensuite, elle a rencontré les hippies. Et donc, chez les hippies, ça lui parlait parce que c'était, pour elle, elle cherchait quoi à être unis, à être ensemble, à être à plein, à chercher l'amour et pas la guerre, comme il disait, le grand classique des hippies. Du coup, elle s'est dit oui, voilà, ça lui a parlé. Ça lui a parlé parce qu'elle ne connaissait pas du tout et que c'était le grand mouvement, donc ils se sont retrouvés à Paris à faire de la musique, etc. Et en Ariège, je pense qu'elle est arrivée avec le bouche à oreille, petit à petit, comme ça, ben voilà, entre hippies, se rencontre, ah, ben, là, il y a tel endroit. Donc, quand elle est arrivée en Ariège, on lui avait dit qu'à Massat, il y avait encore des communautés. Or, il n'y en avait plus à ce moment-là. Donc, elle est arrivée, il neigeait, elle était enceinte. Et elle a demandé au village où est-ce qu'elle est, cette fameuse communauté. On lui a dit, ben non, il n'y en a plus. Par contre, en haut, à Bernay de là-haut, on sait qu'il y a quatre jeunes, quatre familles qui se sont installées. Ils ont acheté une ferme. Allez voir, peut-être que eux pourront vous orienter vers une communauté. Et c'est comme ça qu'elle a marché 7 kilomètres dans la neige, enceinte avec son chien et sa guitare, dont c'est l'histoire. Mon livre débute comme ça. Et donc, elle arrive, elle toque à la porte et il y a une femme qui lui ouvre. Et ma mère arrive et là, on la regarde avec des gros yeux parce qu'il y avait un mètre de neige et que c'était impensable de voir une femme enceinte arriver par un climat pareil. Et c'est là où mon père vivait à ce moment-là.
Donc ils se rencontraient là-bas.
Voilà, exactement. Et mon père rentrait d'une grande journée et il se retourne. Et là, il voit une femme assise dans la cheminée. Et voilà. Voilà comment débute l'histoire.
Read up the five passions. The dragon has been slain. I have been released by love. In my heart dwells in the name. Voice sings the praises of thy greatness and thy love. Enraptured in the ecstasy, I am one with all in the circle of light. In the circle.
On est sur un banc avec Jalamaria, tout près du village de Massat, un peu sur les hauteurs, avec la montagne devant nous. Et avec un bouquin, je vais le ressortir de mon sac pour l'avoir avec moi sur les genoux. Mon enfance sauvage, voilà, un récit publié chez Glénat, où tu racontes un petit peu ton histoire. Donc voilà, maintenant on a compris, ta maman est arrivée d'Allemagne, arrive ici, rencontre son papa, a cette volonté, ce désir de vivre autrement, plus en accord, plus proche de la nature. Et ça colle, elle trouve un homme pour vivre cette réalité-là, et arrivent les enfants, dont toi, qui relate un petit peu ton récit dans ce livre-là. Donc parle-moi de cette enfance.
Et puis en fait, cette enfance, on était 8 enfants, donc on était nombreux, on n'allait pas à l'école. Après, on travaillait beaucoup, parce que vivre en autarcie, ça demande beaucoup d'efforts.
Mais aucun des 8 enfants n'était envoyé à l'école. Ta maman avait vraiment le souhait de les garder tous à la maison.
Oui, il y avait mon frère aîné, parce qu'il faut savoir que mes parents, quand ils se sont rencontrés, ma mère est arrivée enceinte, et mon père avait un petit garçon de 2 ans, et non plus grand, 6 ou 7 ans. Et il allait, lui, à l'école. Et quand ma mère s'est installée avec mon père, elle lui a fait, voilà... Elle me dit qu'elle ne souhaitait pas mettre les enfants à l'école. Du coup, après, mon grand frère, il l'a enlevé parce que c'était compliqué. Il avait sa mère qui était schizophrène, qui venait le chercher à l'école quand elle voulait. Du coup, ça a fait un petit peu peur à mon père. Et voilà, il a décidé avec ma mère de ne pas nous mettre à l'école et de vivre donc en autarcie. Et donc, moi, je suis la quatrième de ces 8 enfants. Je dois dire que j'étais bien placée.
C'est vrai que ton histoire, elle est incroyable. Ça fait vraiment... Est-ce que d'autres enfants dans la vallée aujourd'hui ne vont toujours pas à l'école? Est-ce que tu avais d'autres copains, copines à l'époque qui, eux aussi, n'allaient pas à l'école?
Non, alors il faut savoir, dans la vallée où j'ai grandi, il y avait pas mal de hippies qui venaient de la ville, hein, parce que la plupart des hippies, finalement, c'était des enfants de bourgeois. C'est comme s'ils avaient besoin de rejeter un petit peu ce qu'ils avaient vécu, puis retrouver un peu le côté nature. Et tous ceux qui avaient autour de nous, malgré qu'ils soient hippies, ils allaient tous à l'école. Voilà. Donc il y avait une petite école à Bernède où les enfants y allaient. Nous, on les voyait partir le matin avec les sacs à dos sur le dos. Il y en avait certains qui avaient une heure de marche avant d'y arriver. Et le soir, quand ils sortaient de l'école, ils revenaient toujours nous voir. Et moi, j'étais toujours curieuse de savoir ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient. Donc ils nous racontaient. Moi, j'étais super curieuse de tout savoir.
Et alors, tu avais envie d'aller à l'école aussi ?
Oui, ça m'intriguait énormément. Dans le livre, à un moment, je parle d'un passage fort de ma vie. On n'avait pas le téléphone, donc pas d'électricité. Et ma mère avait perdu son père. Du coup, elle devait appeler la famille en Allemagne. Et elle me dit, bon, je descends à l'école pour passer un coup de fil. Et là, moi, je la supplie, je lui dis, je peux venir avec toi. Elle me dit, ok, viens avec moi. Et là, je m'étais fait tout un rêve, commencer une classe, comment l'ambiance de l'école. Enfin bref, j'ignorais tout ça. Et on arrive, rien qu'une maison avec de l'électricité, une maison normale, entre guillemets. Et on arrive dans cette école. Donc tous les enfants qui étaient dans cette école, c'était nos amis. Et quand on arrive, là j'entends, mais regardez qui là. Moi on m'appelait Lala. Il y a Lala, il y a Lala. Et là il y a tous les enfants qui sortent de leur classe, qui passent la tête par la porte et qui mord de rire. Et bien sûr, il y a le taquin de service qui veut toujours faire le malin, qui me dit « Oh, il y a la petite hippie qui est descendue, il y a la petite hippie !» Moi, je deviens toute rouge, je me colle à la jambe de ma mère, je me planque, et là, je ne savais plus où me mettre. Et du coup, ça m'a un petit peu cassée dans mon... On manquait peut-être un peu d'agressivité. Mon mari me dit ça aujourd'hui, il me dit « C'est vrai qu'à l'école, ben, t'apprends à te défendre. Ben, » Nous, non, je me suis sentie agressée. Et tac, voilà d'où commençait la blessure de l'enfant de hippie, finalement. C'était juste, je pense, le fait de se sentir différent. Aujourd'hui, ces mêmes copains me disent, parce qu'ils ont lu le livre, ils me disent mais pourtant, nous aussi, on était des enfants de hippies. Je dis, oui, mais à notre regard, vous étiez des enfants de hippies riches ou, entre guillemets, plus normales que nous, parce que nous, tout simplement, eh ben, on mangeait ce qu'on produisait, on n'allait pas à l'école, on ne portait pas de jeans, on était pieds nus, on avait tous des habits en laine, donc forcément, des fois, vous vous moquiez de nous. Mais pour nous, ça, c'était... il fallait... Voilà, moi je ne savais pas encaisser, je prenais. Oui, alors c'est marrant parce qu'il paraît qu'il y a un monsieur qui a écrit un livre sur les hippies et il aurait dit dans son livre qu'il y avait les vrais hippies et les faux hippies. Du coup, ça m'a fait sourire parce que c'était peut-être ce genre de détail au final qui, nous, quand on est petit, on ne se pose pas trop la question. Parce qu'après, dans notre milieu, je n'ai jamais été complexée. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans mes dédicaces et les conférences que je fais. Je fais beaucoup de conférences, l'ironie du sort d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences dans les collèges et les lycées. Comme quoi. Et on me pose toujours les questions, beaucoup de questions, et on me demande souvent si c'était dur. Eh bien non, pas pour nous, parce que nous, on a grandi comme ça.
Il n'y a aucun moyen de comparaison, de toute façon. C'était ta vie, ton quotidien, donc tu ne pouvais pas le comparer avec autre chose.
On se réveillait le matin, moi je me souviens dans ma couette, l'eau était gelée sur la fenêtre, il fallait mettre les sabots avec le foin dedans pour ne pas avoir froid, des gros pulls en laine, on partait chercher l'eau à au lavoir. Souvent, il y avait de la glace, donc il fallait la casser. Ensuite, il fallait chercher le petit bois pour aller faire le feu. Ça paraît dur comme ça de l'extérieur, c'est vrai que si on a le confort, mais quand on vit dedans, qu'on est habitué, pour nous, c'était juste normal.
Et la différence, tu l'as vue à quel moment ? Tu parlais d'une blessure à l'école où tu te sentais justement différente. À quel moment est-ce qu'enfant, on la perçoit, cette différence ? Parce qu'à un moment donné, comme tu le dis, tout est normal. Mmh. Hein, c'est notre réalité quotidienne, donc on ne se rend pas compte de la réalité extérieure. Mais quand même, petit à petit, on va l'observer, on va la voir, on va la comprendre. Ça vient comment ?
Mais je pense qu'il y a l'âge de raison. Ça a dû commencer à me faire tilt à l'âge de raison. Entre 7 et 10 ans, on se dit, oui, c'est vrai qu'on est différent. Au départ, moi, je pensais que c'était les gens qui étaient différents. Donc quand je les regardais, quand on les voyait, parce que mes parents étaient ouverts, ils venaient à la maison, mais on les regardait toujours. Pour nous, ça nous faisait rire quand il y avait des jeunes de Lyon qui arrivaient, qui savaient pas faire un feu de bois. Mais on se tordait de rire. On se disait, c'est pas possible, ils ont 20 ans, ils savent pas faire un feu, quoi. Et donc, je me rappelle avec mes frères, on était morts de rire. C'était tout simplement inimaginable. Et donc cette différence, elle est venue là. Et le complexe, lui, tant que les gens venaient chez nous et qu'ils admiraient notre vie, on était presque fiers. Par contre, la différence, c'était voilà, avec les copains, les amis, au village, tout simplement, quand on venait à la fête foraine à Massat. Ben voilà, la prise de conscience vers 10 ans, quand on descend, ben là, on se rend compte que finalement, c'est nous qui sommes complètement différents.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et là, quand tu descends à Massat, tu me le disais avant, en chemin, tu descends avec les chevaux, les sabots.
La charrette, voilà, on vivait comme ça, donc on n'avait pas d'autres moyens. On descendait souvent à la bibliothèque, on allait à la bibliothèque chercher des livres. Et voilà, c'était la sortie au marché, le jour du marché. Et pour nous, c'était, on adorait. Pour nous, c'était la grande sortie, c'était, voilà, on va en ville.
Donc, on va en ville, c'est toute la famille, tu disais, tu es la quatrième, hein, donc tu es au milieu, donc c'est la place la plus facile. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas en train de devoir t'occuper des plus petits ou des plus grands ?
Complètement. Aujourd'hui, je vois, les aînés, ils ont pris... On dit, mais souvent dans une famille, les aînés, ils prennent plus cher que les petits, parce que forcément, on n'est pas parents, on le devient. Et quand on a choisi de vivre en autarcie, avec une vie qui est rude, pour nous, c'était pas dur de vivre comme ça. Par contre, il faut se remettre dans le contexte. Mes parents, ils arrivaient de la ville. Donc pour eux, c'était dur. Ils étaient jeunes, ils ont fait plein d'enfants, tout de suite. Ma mère me disait, quand j'étais dans son ventre, elle en avait une qui avait 2 ans, qu'il fallait porter sur le dos. Elle en avait un de 3 ans qui tétait. Il fallait qu'elle aille porter le linge à un lavoir qui était à 2 kilomètres. Et elle avait moi dans le ventre. Donc ça demande un effort. Pour eux, oui, bien sûr, c'était dur. Donc il y a eu du stress, il y a eu beaucoup de choses. Donc imaginez bien que les premiers enfants qui sont arrivés, ils avaient énormément de responsabilités. Ma sœur, à l'âge de 10 ans, ce n'était plus une enfant, c'était une maman qui s'occupait des derniers frères et sœurs, parce que ma mère était dans les champs. Du coup, c'est elle qui leur donnait à manger, qui les couchait, ou bien, une fois qu'ils avaient tété, c'est elle qui les changeait. Les couches, c'était des langes à l'ancienne qu'il fallait laver au lavoir. Voilà, ça demandait tout un effort. Et ma sœur, elle n'a pas eu d'enfance. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour elle, c'est délicat, c'est dur. Et je me rends bien compte que moi, j'étais bien placée parce que j'étais au milieu et que je pouvais divaguer. Je pouvais, quand ma mère, voilà, elle disait à ma sœur, bon, ben, y a le repas à faire, il y a le ménage à faire, tu t'occuperas des derniers, tu les mets au lit, moi, je rentre à 3 heures. Ma sœur essayait hein, de me dire, viens m'aider. Moi, souvent, je m'entends encore lui dire, t'es pas ma mère, laisse-moi faire. Donc, je me défendais comme je pouvais. Donc, j'ai vécu mon enfance. Je partais gambader avec mes frères dans les arbres, on grimpait. On adorait grimper aux arbres. Je l'ai vécu, j'ai réussi, puis j'avais beaucoup de caractère. Quand je sentais qu'il y en avait trop, je savais dire non, quitte à chercher le conflit. Alors que ma sœur, non, elle n'avait tout simplement pas le droit. Je pense qu'il y a eu une autorité qui était d'avant. On est plus autoritaire souvent avec les premiers. Et donc, elle, oui, tout simplement, mais je veux dire, et les derniers, la dernière petite sœur qui est arrivée 15 ans plus tard, donc j'ai 15 ans de différence avec elle. Et bien elle, c'est la seule qui a été à l'école parce qu'elle est née en même temps que sa nièce. Ma sœur était enceinte en même temps que ma mère. Et du coup, elles ont été à la petite école que nous, qu'on n'a pas vue. Donc c'était la dernière qui a été. Et bien sûr, mon père, il s'est rendu compte aussi, quand il a vu que je partais, que moi j'étais la première des 8 enfants à me rebeller. Tout simplement parce que je suis curieuse, je me jette des défis, j'ai envie de me dire mais pourquoi on vit comme ça ? J'avais qu'une envie, ma mère, elle pensait qu'on n'allait jamais quitter sa vallée. Et je me disais, elle va souffrir. Parce que moi, je savais qu'au fond de moi, je partirais. J'avais envie, quand tous ces jeunes arrivaient de Lyon, de Paris, qui nous racontaient leur vie, mais ça me faisait... Mais j'avais tout simplement envie d'aller courir dans ces villes et de voir ce qui s'y passait. Et je me disais, ça va être dur pour ma mère, parce que je ne crois pas qu'elle s'attend à ce qu'on puisse changer de vie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.